Les archives de l'écologie. François Bernard.
Bonjour et bienvenue. La COP 30 est terminée. Les écologistes n'en attendaient rien, sauf surprise. Il n'y a pas eu de surprise. Les discussions se sont poursuivies, mais chacun sent bien que la période est difficile. Comment faire avancer la lutte contre le réchauffement climatique quand les trois principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre, la Chine, les États-Unis et l'Inde, ont été à peine représentés à l'occasion de cette conférence à Belém ? Ce qui ne veut pas dire que rien ne se passe. La conscience du problème se diffuse, les luttes se poursuivent, les modes de vie, de consommation s'adaptent. Les problèmes restent entiers, mais l'espoir persiste. C'est une consolation. Les auditeurs fidèles de ces archives de l'écologie savent bien que les questions qui se posent aujourd'hui en matière environnementale ne datent pas d'hier. Et le reportage des années 2000 que nous vous proposons reste étonnamment d'actualité. Ces reportages sont une production de Radio France Internationale proposée par Arnaud Jouve et son équipe entre 1995 et 2005. 10 ans de bilan dont les grandes lignes sont les mêmes qu'aujourd'hui. Dérèglement climatique, pollution, appauvrissement du vivant. Des progrès sont accomplis ici et là pour tenter de redresser la barre, mais il faut reconnaître que globalement, la situation se dégrade. Mais comme le disait un scientifique, fin observateur de la situation, la question n'est pas de savoir si on va dans le mur, mais à quelle vitesse on va le percuter. Restons au Brésil avec l'archive d'aujourd'hui pour rencontrer les peuples amérindiens. Ils ont voulu faire entendre leur voix à l'occasion de cette réunion de Belém. Ceux de la forêt guyanaise, par exemple, dont l'eau des rivières est polluée par le mercure utilisé par les chercheurs d'or, les orpailleurs. Les peuples amérindiens, gardiens de vastes territoires, ont vu leur mode de vie totalement chamboulé par l'exploitation de leurs terres traditionnelles. Quelle était leur existence avant cela et comment ont-ils réussi à s'adapter aux nouvelles conditions qui leur étaient imposées ? À ces questions répond un reportage de Fréquence Terre qui date de février 2005. On écoute cette nouvelle archive et on se retrouve juste après.
Bonjour à tous. Dans le cadre de notre série sur le Brésil et les populations qui vivent en Amazonie, je vous propose cette semaine quelques regards sur les premiers habitants de cette gigantesque forêt. Cette forêt que certains considèrent comme partiellement vierge et qui est un terrain de conquête pour de nombreux Brésiliens, est une forêt habitée depuis très longtemps qui a été modelée, cultivée, transformée au cours du temps par des populations amérindiennes qui pratiquaient une sorte d'agriculture nomade et qui y ont développé des modes de vie parfaitement adaptés à cet environnement. Mais les violences de l'histoire ont confronté ces populations à toutes sortes d'agressions qui ont bien failli les faire disparaître totalement. Aujourd'hui, les sociétés indiennes qui ont réussi à survivre et à préserver leur mode de vie le doivent à la forêt, dans lequel ils ont pu se retrancher et dans laquelle se réfugient encore aujourd'hui des petits peuples qui refusent toujours un nouveau contact avec notre modernité et que l'on appelle les peuples non contactés. Et puis, il y a eu des initiatives extérieures pour les protéger, comme la toute-puissante FUNAI, la Fondation Nationale de l'Indien, organisme public brésilien, qui gère toutes les questions indiennes du Brésil, un organisme que préside Mercio Pereira Gomes, que nous avons joint par téléphone et qui nous fait un état de ces populations amérindiennes du Brésil.
Olha, o Brasil tinha em 1500 5 milhões de índios. Era no que hoje chamamos o território brasileiro.
Au Brésil, en 1500, il y avait 5 millions d'Indiens répartis sur près de 600 tribus. Trois siècles plus tard, il n'en restait plus que 700 000 et en 1900, 300 000. La population indienne a continué de baisser. D'après l'anthropologue Darcy Ribeiro, Elle a atteint son seuil le plus bas en 1955. Il ne restait plus que 120 000 Indiens. Aujourd'hui, la population amérindienne du Brésil compte 430 000 personnes. Sur les 600 tribus d'origine, il ne reste que 220 peuples qui parlent 170 langues, regroupées en 6 troncs linguistiques différents. Certaines de ces langues sont largement répandues, comme l'arawak, que l'on retrouve jusqu'aux USA. Au Brésil, les Indiens vivent dans 600 territoires indiens reconnus et une centaine sont en cours de reconnaissance par l'État. L'ensemble de ces territoires recouvre une superficie de 1 100 000 km², soit plus ou moins deux fois la superficie de la France. Dans l'Amazonie, les terres indiennes, ce sont 9 millions d'hectares. Cela comprend des territoires comme celui des Indiens Yanomami, avec 90 000 km², grand comme le Portugal, ou le territoire du peuple Kayapo, qui s'étend sur 12 millions d'hectares, soit environ 120 000 km².
Malgré l'importance de la superficie de ces terres indiennes et les règles très strictes d'accès à ces territoires, les sociétés amérindiennes doivent faire face à de nombreuses formes de nouvelles agressions. La forêt dont ils dépendent est menacée. De nouveaux fronts de pionniers, d'aventuriers et d'exploitants de toutes sortes pénètrent de plus en plus profondément en forêt jusqu'à leur territoire et les conflits se multiplient. Merci au Pereira Gomes.
L'origine des conflits, c'est toujours le processus colonial interne qui existe encore au Brésil. Il y a une énorme majorité de gens qui, d'une certaine façon, oppriment les peuples indiens par leur présence. Il y a des mineurs dans les grands espaces amazoniens qui s'intéressent aux terres indiennes, et derrière eux des politiciens qui affirment que ces terres indiennes sont localisées dans des endroits où il y a de l'or, des diamants. Et ces politiciens font beaucoup de bruit, comme si la FUNAI délimitait ces terres indiennes délibérément là où il y a des sites miniers stratégiques, ce qui n'est pas le cas. Il y a aussi le processus de déforestation de l'Amazonie, même dans les terres indiennes déjà délimitées. Il y a les grandes exploitations agricoles de soja, par exemple, qui ne respectent pas l'abord des territoires, ni les végétations typiques qui bordent les fleuves et qui permettent d'éviter l'érosion. Et le développement de cette érosion, même s'il est fait en dehors des terres indiennes, finit par avoir des conséquences désastreuses pour les Indiens qui dépendent de la nature pour vivre. Il y a donc beaucoup d'intérêts qui convergent vers les terres indiennes. Ces intérêts sont parfois très agressifs, comme avec les garimpeiros, les chercheurs d'or, ou les forestiers qui essaient de persuader les Indiens de les laisser couper les arbres de leur territoire en leur proposant de l'argent. Et puis, il y a aussi les grands propriétaires, les exploitants agricoles, qui s'intéressent aux terres indiennes, même si elles sont déjà délimitées et protégées, pour proposer aux Indiens des systèmes de concession, d'arrendamentos, pour qu'ils puissent exploiter les terres. C'est le cas, par exemple, des grandes exploitations agricoles de soja, qui sont maintenant en train de s'étendre dans le territoire de l'Amazonie, dans le sud du Brésil, et dans d'autres régions aussi.
Aujourd'hui, les peuples amérindiens d'Amazonie se sont aussi organisés entre eux et disposent de nombreux appuis à l'étranger, auprès d'amis qui les ont visités, auprès d'ONG engagées dans la défense de leurs intérêts, et même aux Nations Unies et dans certaines instances internationales comme l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui à travers sa convention 169 reconnaît aux peuples autochtones des droits que beaucoup de pays ne leur reconnaissent pas. Autre regard, autre perspective sur ces Indiens du Brésil avec Anne-Christine Taylor, directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly, le futur grand musée des arts premiers à Paris.
Alors, les Indiens du Brésil bénéficient aujourd'hui d'une certaine protection, assez relative, il faut bien le dire. Il y a régulièrement encore des massacres d'Indiens, des assassinats isolés assez fréquents, notamment de la part des milices armées par les grands éleveurs ou les grandes entreprises, soit d'exploitation du bois, voire les chercheurs d'or. Mais c'est devenu plus rare qu'autrefois. C'est vrai qu'autrefois, les massacres d'Indiens étaient absolument permanents. L'attrition démographique de ces populations le montre bien. Mais c'est vrai que depuis les années 80, les populations indiennes bénéficient d'une certaine protection qui est, je pense, liée au statut symbolique qu'ils occupent dans la société brésilienne, qui est sans commune mesure avec leur nombre, si j'ose dire. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal que d'aussi petites fractions de population puissent, en somme, occuper des territoires aussi gigantesques, sachant le terrible problème de manque de terres, notamment de tous les paysans du Nord-Est qui cherchent désespérément de quoi survivre. Je pense que ça tient en partie à la manière dont l'identité brésilienne se compose et à l'idée que, au fond, ces Indiens tiennent une place symbolique importante dans la manière dont la nation brésilienne se représente aujourd'hui. Alors, il y a en partie, évidemment, la pression internationale, les ONG qui aujourd'hui prolifèrent en Amazonie, qui sont en quelque sorte des oreilles et une voix puissantes maintenant, puisqu'elles sont totalement mondialisées. Et quand on massacre des Indiens au Brésil, ça se sait dans les 3 heures dans le monde entier, grâce aux ONG. Ça, c'est évidemment une question déterminante pour tous les gouvernements des pays qui ont des populations amérindiennes et qui a beaucoup changé la donne. C'est absolument indiscutable. Donc il y a la pression de l'opinion internationale, avec des acteurs puissants comme les ONG environnementalistes, pour qui les Indiens sont, en quelque sorte, font partie de l'environnement. Et les Indiens ont très bien perçu cette planche de salut, d'une certaine façon, que leur offre l'Occident, qui est d'être considérés comme les emblèmes d'un mode d'inscription dans l'environnement non destructif, soit comme des gardiens d'une forêt qui, maintenant, est considérée comme patrimoine de l'humanité. C'est le cas de l'Amazonie, évidemment. Il y a donc ces éléments-là, et puis aussi, probablement, une manière dont le Brésil lui-même se définit par rapport, maintenant, dans un contexte de mondialisation également, la manière dont le Brésil lui-même se présente comme nation, et où les Indiens, on l'a vu dans les années 30, par exemple, où les Indiens commencent à occuper une place symbolique comme symbole d'une identité brésilienne qui n'est ni tout à fait européenne, ni tout à fait latino-américaine, et où les Indiens sont un élément d'une sorte de bricolage identitaire, avec un petit côté sauvage, un petit côté mythique, voire surréaliste, qui fait partie de la fibre, disons, de l'identité brésilienne.
Autre regard d'un grand spécialiste des questions autochtones avec Christian Gros, directeur de recherche à l'Institut des Hautes Études sur l'Amérique latine, ex-directeur France de Survival, une organisation mondiale de soutien aux peuples indigènes.
Dans le cas du Brésil, un peu comme dans d'autres régions de l'Amérique latine, je dirais qu'aujourd'hui, la pression sur les intérêts environnementaux n'a jamais été aussi considérable. Et ceci se répercute à la fois positivement et négativement sur les populations indigènes qui se trouvent à être localisés dans des régions de grand intérêt, je dirais, stratégique du point de vue de la biodiversité, des intérêts environnementaux. Ce qui veut dire que dans le cas du Brésil, nous avons un espace amazonien dans lequel les populations sont établies depuis toujours, sur des terres qui leur sont reconnues avec une plus ou moins bonne protection, suivant la nature de la reconnaissance qui leur a été apportée, sur des surfaces qui sont tout à fait considérables, puisque les terres de l'Amazonie brésilienne, reconnues comme terres indigènes, couvre 2 fois la surface de la France, donc c'est quand même très considérable. Hein. Et là-dessus, bien entendu, il y a des intérêts tout à fait considérables qui s'opposent. Les populations indiennes réclament leur territorialité, c'est-à-dire la possibilité de disposer des espaces qui sont les leurs, qui leur ont été reconnus, et des intérêts économiques très très puissants. Vous aurez, comme toujours, c'est pas nouveau, s'approprier soit les forêts, soit les ressources minières, soit les connaissances accumulés depuis des millénaires par ces populations indigènes. Donc il y a un cadre de confrontation qui est assez fort. Hein, et on a pu penser, après la constitution de 88, qui a été très favorable aux droits des populations indigènes, que finalement, les contradictions sans disparaître allaient se pacifier. C'est pas le cas. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les pressions restent extrêmement vives, extrêmement fortes, hein, et que les reconnaissances juridiques qui ont été apportées pèsent certainement dans la balance, ne sont pas suffisantes pour protéger très efficacement les populations qui sont aujourd'hui en danger.
Comment le Brésil d'aujourd'hui regarde ses populations amérindiennes? On a l'impression qu'elles sont d'une certaine manière infantilisées, que dans le même temps, on va leur permettre officieusement de régler eux-mêmes certains conflits locaux de manière parfois extrêmement violente. Par exemple, il est interdit de rentrer dans les territoires indiens sans autorisation. C'est passible d'une peine de prison. Mais les autorités ne peuvent pas surveiller tous les abords de ces territoires et on va accepter dans certains cas que les Indiens protègent eux-mêmes leurs terres. Christian Gros.
Il faut comprendre plusieurs choses. D'abord, au Brésil, jusqu'à la Constitution de 88, les populations indiennes étaient sous un tutorat, étaient considérées comme mineures, n'ayant pas tous leurs droits, et donc devaient recevoir la protection de l'État fédéral. La Constitution de 88, de ce point de vue-là, les a reconnus comme majeurs, je dirais, et pouvant disposer de droits qui le sont reconnus dans le cadre constitutionnel. Donc c'est un changement positif, à n'en pas douter, même si, dans cet cas, dans le cas par exemple, de populations récemment contactées, à l'évidence, il y a un devoir de protection et de tutorat que doit exercer la puissance publique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le Brésil est un État fédéral. Et les États de la Fédération, surtout les États du Roraima, etc., qui sont situés dans les zones amazoniennes, sont contrôlés par des oligarchies locales, non indiennes, bien entendu, hein, dont tous les intérêts sont très clairement opposés aux populations indiennes locales, puisque ces oligarchies locales, ce qu'elles veulent, c'est contrôler les espaces et les richesses qu'elles recouvrent, et bien entendu, sont tout à fait hostiles à la reconnaissance des droits indigènes. Et donc, le problème du Brésil, c'est que l'État fédéral fait une législation qui a dû le plus grand mal à passer au niveau des États de la Fédération, et que le gouvernement, Lula en particulier, bon, pour des raisons politiques qui n'ont rien à voir avec les questions indiennes, est amené à pactiser avec des pouvoirs locaux, etc., pour tenir des majorités, ou des négociations diverses, et que très souvent, ces négociations qu'il fait avec les autorités des États de la Fédération, dans lesquelles sont situées des populations indigènes importantes, ces négociations se font au détriment des populations indigènes locales. Et donc, c'est une situation qui est très préoccupante de ce point de vue-là. Et donc, il faut comprendre que le Brésil, c'est très grand, hein, et qu'il y a des États, au sein de la Fédération, qui ont des pouvoirs importants sur leurs espaces, qui c'est eux qui les régulent, et qu'il peut y avoir des contradictions aux trois niveaux, entre aux intérêts locaux, au niveau des États, de la Fédération et au niveau fédéral.
Anne-Christine Taylor, pour conclure, comment voyez-vous l'avenir de ces populations amérindiennes d'Amazonie?
Je pense que le futur des Indiens est très précaire, très délicat, parce qu'ils vont devoir se frayer un chemin entre deux dangers qui les guettent de façon particulièrement forte. L'un de ces dangers, c'est évidemment d'être complètement privés de leurs terres, privés de leur environnement naturel, de leur environnement habituel et donc de leur mode de subsistance traditionnel, réduits à un état de main-d'œuvre précaire, de péonisation, etc. Éventuellement émancipés, c'est-à-dire qu'ils perdent tous leurs droits collectifs et qu'au bout du compte, leur culture soit complètement absorbée par l'avancée de la mondialisation. C'est un vrai danger, incontestablement. Mais il y a un autre danger, qui n'est d'ailleurs pas exclusif du premier, qui est au contraire celui de l'exotisation complète, de la vitrification, si j'ose dire, de la muséification, d'une fossilisation de la culture, qui est induite par le fait même qu'ils sont protégés par le fait qu'ils sont indiens, et donc petit à petit, l'indianité devient une propriété qui leur est propre, ce qui n'est pas le cas des cultures indiennes. Les cultures indigènes sont des cultures extraordinairement ouvertes et où on peut parfaitement être indien tout en vivant en ville, etc. Ce droit-là risque d'être perdu et ils risquent de se trouver acculés à être des indiens en quelque sorte professionnels. au fond, ce à quoi ils tiendraient, qui est tout simplement qu'on les laisse continuer à être ce qu'ils sont, sans les obliger à être ni des Indiens, ni des paysans sans terre.
Sur ces chants traditionnels des Indiens Kayapo, qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission, se termine ce deuxième volet sur les populations d'Amazonie. Nous nous retrouverons la semaine prochaine autour de la question des sans-terre et des nouveaux fronts pionniers sur la forêt. Toute l'équipe de Fréquence Terre, Sandrine Anthem, Manon Houssin et Arnaud Jouve vous saluent et vous donnent rendez-vous la semaine prochaine. Même fréquence, même planète, même heure.
Voilà, reportage produit par Radio France Internationale en février 2005. Est-ce que la situation des Amérindiens d'Amazonie s'est améliorée depuis cette époque ? Non. On ne peut pas dire que la situation se soit globalement améliorée. Beaucoup de peuples autochtones sont en situation précaire, leurs droits ne sont pas toujours respectés, les conditions de vie, sur le plan de la santé par exemple, ou de la sécurité, continuent de poser problème. Mais on peut aussi dire oui, surtout grâce à une meilleure reconnaissance juridique de leurs terres. Certaines communautés parviennent à préserver la forêt. Rien de spectaculaire, mais un petit frein à l'exploitation des mines et à l'agro-industrie, par exemple. Les peuples autochtones sont devenus un symbole international de la préservation de l'environnement. Ils jouent leur partition dans l'effort collectif pour trouver des solutions. Voilà, c'est la fin de cette émission que vous retrouvez ainsi que toutes les précédentes sur notre site alternantefm.fr. Notre chanson de la semaine, pour tenter de garder un moral intact dans cette période incertaine, une bande de chanteurs, chanteuses réunies sous le nom de USA for Africa, une archive encore qui date de 1985. We are the world. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. Merci de votre compagnie. À la semaine prochaine. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are part of God's great big family, and the truth, you know, love.